Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Haloud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bon ramadan à vous. Studio Tamani, à travers ma voix, vous souhaite de bons moments en compagnie donc de cette émission et très bon mois de ramadan. Justement, le débat d'aujourd'hui porte sur le ramadan. Nous sommes jeudi 18 juin 2015. Bienvenue à cette émission et merci de nous recevoir chez vous. Vous l'avez constaté dans le ton, le rythme n'est pas le même. Mois de ramadan oblige. Nous sommes avec quatre invités. Imam Elhadj Mamadou Diallo de Trocoro. Docteur Ibrahima Guindo de l'Institut National de Recherche en Santé Publique, Djantouma Koïta du Syndicat National des Commerçants Détaillants et Madame Koulibaly Salimata Diara du syndicat, présidente de l'Association des Consommateurs du Mali. Merci à vous messieurs, merci madame pour votre présence. Nous sommes donc là pour le ramadan. Salim Douara est à la mise en onde. Je suis Famoussa Sidibé. C'est un mois béni donc qui consacre le jeûne, une privation volontaire de nourriture et d'eau pendant la journée comme une obligation exigée donc de tout musulman saint. Le Saint-Coran dit que durant le mois de Ramadan, les récompenses sont multipliées et les cœurs purifiés. Le meilleur profit à en tirer quant à l'accomplissement des bonnes œuvres réside dans ce mois. Au-delà donc de l'obligation de la religion, les médecins expliquent que le jeûne ne convient pas à tous. Le ramadan incite les fidèles à se recueillir, à ressentir donc la spiritualité qu'inspire chaque jour de cette période très particulière. Le ramadan, 9e mois de l'année musulmane, a été décrété selon les érudits par le Clément. Miséricordieux, Allah, 2 ans après l'Hégire pour étendre encore sa clémence et sa grâce sur les fidèles, mais aussi absoudre leurs péchés. Alors, Imam Mamadou Diallo de Trocoro-Bougou, est-ce que les règles que l'islam dit, que le Coran dit en la matière, en matière de jeûne, est-ce que ces règles sont connues des fidèles musulmans?
A'ouzou billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Merci pour l'occasion que vous nous offrez cet après-midi pour nous exprimer, pour donner des explications à nos co-religionnaires musulmans. Je profite de votre micro pour souhaiter un agréable mois de Ramadan à tous les musulmans et à tous les Maliens. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos prières. Là où le bas blesse aujourd'hui, que les règles de l'islam ne sont pas connues de tous les musulmans, c'est vraiment dommage. C'est pourquoi peut-être que le médecin est mieux placé pour parler de ça. On trouve que des gens malades essayent de jeûner. Donc, alors que l'islam dit que vraiment tous ceux qui sont malades doivent pas jeûner. Et donc, il est bon, c'est pourquoi l'islam insiste à conquérir le savoir. Parce qu'il faut connaître d'abord l'islam. Avant de commencer l'adoration, il faut connaître aussi l'islam. S'il y a un problème dans un pays comme le Mali où 95% de la population est presque musulmane, mais le problème est que les gens ignorent les règles de l'islam. C'est ce qui pose problème aujourd'hui.
D'accord.
Donc là, il faut commencer par là. Je pense que les associations musulmanes doivent se battre vraiment pour que la population puisse comprendre les règles de l'islam.
Merci beaucoup, donc Imam Mamadou Diallo de Trocoro-Bougou. Alors, pendant ce mois, les femmes se mobilisent énormément pour faire face non seulement aux dépenses, mais aussi aux tâches dans les domiciles. Nous avons avec nous Madame Koulibaly et Salimata Diara, présidente de l'Association des consommateurs du Mali. Alors, Madame, est-ce que les femmes sont assez imprégnées des règles du mois de Ramadan, du jeûne?
Merci Studio Tamani pour ce débat de cet après-midi qui est d'une utilité incontestable. Et je pense que les femmes ont quand même la volonté pour le mois de carême, il faut reconnaître ça. même si elles ne connaissent pas tout, leur volonté est de faire en sorte de jouer leur rôle en la matière. Et elles sont très dévouées pour ça. Elles acceptent beaucoup de sacrifices extraordinaires. Je pense que l'imam est là, il pourrait en témoigner. Et cela ne veut pas dire qu'elles savent tout. Mais d'une manière générale, les femmes musulmanes sont très dévouées à la matière. C'est ce que je peux dire.
D'accord. Alors, juste avant d'entamer la deuxième partie qui est donc consacrée au prix, nous avons le syndicat donc des commerçants détaillants avec nous, à la personne représentée par Diantouma Koïta. Alors, Monsieur Koïta, est-ce que, malgré ce que dit la religion, ceci est respecté des commerçants, notamment des commerçants détaillants?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis très content de m'avoir donné la parole sur ce plateau. Bon, je crois que l'État, les grands commerçants, les commerçants détaillants se sont impliqués pour qu'il n'y ait pas augmentation de prix. Mais dans la pratique, il faut la vigilance des associations de consommateurs. L'an passé, quand on était dans le débat, on dit que tout homme est avide d'avoir plus. Ça, c'est l'avis de l'homme même, je crois, depuis sa créature. Sinon, à la télé, il y a eu des débats pour fixer des prix. Mais ce matin, moi-même, j'ai été à Bagadadi. On dit que l'oignon est à 200 francs. Mais j'ai trouvé le prix de l'oignon aujourd'hui à 350 francs le kilo. Ça veut dire que les commerçants s'impliquent au niveau des organisations. Mais souvent, dans la pratique, tout homme, les gens ne font pas comme ça se doit. Moi, quand même, j'interpelle les associations de consommateurs. J'interpelle l'État. Hier, quand dans la déclaration du ministre du Commerce qui dit qu'il y a la Direction nationale du Commerce qui doit aller voir comment ça se passe, vraiment, le premier jour du mois de carême, j'étais ce matin sur le milieu, voir comment les choses se passent. Souvent, ce n'est pas ça ce qu'on dit.
D'accord. Donc, vous demandez plus de vigilance donc, de la part de l'État et des associations de consommateurs.
Et des ménagères. Elles sont au marché sans nous. On ne fait pas la police derrière. Elles sont au marché, il faut qu'elles soient vigilantes. Qu'elle sache choisir et qu'elle sache refuser. Absolument.
Donc, avis donc aux ménagères, votre présidente, la présidente des consommateurs donc, du Mali, vous dit plus de vigilance et c'est à vous de vérifier les prix sur les marchés si ces prix-là sont conformes à ce que dit l'État. Alors, nous avons un médecin, bien évidemment, pour parler des cas de santé. Monsieur Guindo, vous êtes avec nous de l'Institut national de recherche en santé publique. Et qu'est-ce que vous craignez de plus, le plus durant cette période de Ramadan?
Je joins ma voix à mes prédécesseurs en vous remerciant pour l'occasion que vous nous offrez pour nous exprimer encore. Donc, c'est vrai ce que vous venez de dire. Nous créons beaucoup de choses parce que l'état de santé d'un seul patient, d'un seul citoyen, c'est une urgence pour les agents de santé. Donc, nous craignons parce que, surtout en début de Ramadan, c'est comme si ce sont les habitudes qui changent. Donc, on peut passer pendant le Ramadan dernier un parfait mois de jeûne, correct, sans problème, et en commençant ce mois-ci et commencer avec des problèmes. Donc, ça peut susciter tout de suite un déséquilibre de l'état de santé. Donc, certains, ils ne supportent pas. Ça peut arriver, peut-être suite à une situation, un état pathologique qui s'est installé sans qu'on le sache, parce que souvent c'est suite à ces circonstances qu'on en découvre. Voilà, d'autres, c'est des malades non connus, mais la maladie peut se déclencher suite, par exemple, au jeûne. Donc, des situations comme ça, nous pouvons les craindre. Et ça peut aller jusqu'au pire, et des malaises, jusqu'aux pertes de conscience. Donc ça met tout de suite tout un environnement en alerte. Voilà, donc les agents de santé à tous les niveaux, les services d'urgence, les permanences quand même en principe sont disponibles au tout niveau de toutes les structures de santé. Et en cas de choses de malaise ou autre, les situations, les patients, les populations, je veux dire, peuvent faire recours à ces centres de santé à tout moment et les gens de santé sont disponibles pour les permanences.
D'accord. Voilà. D'accord. Alors, il y a tout un volet qui est consacré à cette question, relation entre le jeûne et la maladie. Nous allons débattre de tout ça tout à l'heure. Mais avant, je me tourne vers Imam Diallo. Est-ce que vous, à votre niveau, vous menez des activités allant dans le sens du contrôle des prix et dans la sensibilisation, par exemple, des commerçants par rapport à ce mois béni où la foi doit être mise au devant de tout?
Oui, affirmatif. C'est notre boulot, ça, en tant que religieux, en tant qu'imam. Un imam, c'est un guide. Ce que nous faisons, c'est nous profitons des sermons de vendredi qui est suivi par beaucoup de personnes. La majorité des musulmans vient le vendredi à la mosquée, très nombreux. Donc on profite vraiment de notre sermon de vendredi pour informer les gens, pour dissuader ceux qui veulent augmenter le prix. Et surtout, il y a ceux qui emmagasinent avant le ramadan et ensuite faire la surenchère pendant le ramadan et dire que c'est interdit. Et si tu le fais, tu auras la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on essaye, par le moyen de boire, à travers ces prêches-là, essayer de le dissuader. Voilà ce que nous faisons en tant que religieux. Voilà.
Nous sommes pas loin donc de la pause. Nous allons rester avec vous, Imam Diallo. Qu'est-ce qui est demandé aux fidèles durant ce mois, très concrètement?
Ce qui est demandé, vous savez, Allah dit dans la sourate La Vache, sourate 2 du Coran, vous qui portez la foi, le jeûne de Ramadan vous est prescrit comme il a été prescrit à la communauté qui vous ont précédé. Afin que vous atteigniez la foi. C'est-à-dire l'objectif principal du ramadan, c'est d'avoir la piété. Donc pour avoir la piété, il est demandé aux musulmans d'être sincères sur tout ce qu'ils font. Et d'augmenter les actes d'adoration pendant ce mois de ramadan. Il suffit pas, c'est qu'on, hier, j'étais invité par, je ne sais pas, par une équipe, une chaîne de télévision où on parlait de jeunes filles de Bamako qui s'habillent n'importe comment pendant les 11 mois et puis pendant le mois de Ramadan, ils essayent de se couvrir. De
changer les habitudes.
De changer les habitudes. C'est pas ce que l'islam demande. L'islam, ne demande pas seulement qu'on se couvre pendant le mois de Ramadan. L'islam demande à la musulmane de se couvrir. Vraiment, l'islam demande
en toute période. Hein?
En toute période, c'est pas seulement le mois de Ramadan, mais il est demandé pendant le mois de Ramadan, c'est un mois d'intensifier, d'augmenter les actes d'adoration, lire surtout beaucoup le Coran, parce que c'est le mois dans lequel le Coran a été révélé. C'est ce que le Coran dit. Shahru Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Donc il est demandé à chacun d'entre nous, même ceux qui ont des difficultés à lire le Coran, et d'ouvrir le Coran. Le Coran ne doit pas rester dans nos bibliothèques pour embellir la maison. On doit quand même avoir le temps de le lire, essayer de le comprendre, de comprendre le Coran. C'est ce que je disais au début de l'émission. Le problème ici, c'est que beaucoup de musulmans ignorent les règles même de l'islam. Donc il est demandé aux musulmans vraiment de faire beaucoup plus d'efforts, d'essayer de s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi le prophète dit dans son hadith, si par exemple quelqu'un vient vers vous, si quelqu'un veut vous frapper ou bien il veut faire du mal, et c'est à vous de dire, moi je gêne, j'ai pas le temps de vous répondre. Donc et le prophète ajoute, et celui que le gêne ne l'amène pas à abandonner les mensonges et tout ce qui est interdit, et la personne vraiment ne doit même pas gêner. Parce que le jeûne est fait pour que qu'on puisse s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on remarque qu'il y a des gens qui gênent, mais avec tout ça, vraiment, ils font des choses qui sont contraires à la foi. Donc, on peut pas, leur foi ne peut pas être renforcée tant qu'ils sont sur ce chemin-là.
D'accord. Merci beaucoup. Nous observons quelques secondes de pause. Ensuite, nous reprendrons le cours de cette émission.
Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Studio Tamani, c'est notre compte Twitter, notre page Facebook, mais également notre site web www.studiotamani.org. Aujourd'hui, le Grand Dialogue est consacré au Ramadan, les règles du Ramadan, le Ramadan et les prix, et également le Ramadan en fonction de votre santé. Nous sommes avec des spécialistes pour en parler, plus d'autres acteurs donc du secteur de la consommation, notamment Madame Koulibaly Salimata Diarra, qui est donc la présidente à tous les consommateurs du Mali. Alors, je me tourne vers le représentant du syndicat des commerçants détaillants. Aujourd'hui, quels sont les mécanismes que votre syndicat et l'État avaient mis en place pour le contrôle et l'application des textes par rapport au prix en ce mois de Ramadan?
Ok, la technique, ça c'est que notre président est membre de la commission des prix. Ça veut dire qu'il est là avec d'autres structures pour fixer les prix, quel que ce soit le mois de Ramadan, que ce soit d'autres mois. Maintenant, comme c'est une association, lui aussi il fait son appel à nos structures, que ce soit dans les régions, que ce soit dans les cercles, pour dire que on est d'accord, l'État a dit que les grossistes vont vous donner à tel prix et vous revendez à ce prix-là. Ça, c'est ce que nous pouvons. Parce que nous, on n'est pas répressif, on n'a qu'une association qui doit sensibiliser et expliquer. Comme Livion vient de dire aussi, je crois que l'islam, même hier, j'ai entendu l'intervention de Mahmoud Diko qui parle du le rôle du commerçant pendant le mois de Carême. Tu peux avoir de l'argent et tu peux avoir beaucoup de... Tu peux avoir beaucoup de péchés de revenus si tu fais le commerce légalement, sans faire de surenchère. Ça veut dire que le commerçant peut avoir deux bénéfices. Le bénéfice espèce liquide de l'argent et le bénéfice que Dieu peut te donner, le paradis, en faisant du bien. Ça veut dire, je crois que les imams font ça dans les mosquées, ils font ça entre nous. Mais c'est dans l'application où il y a le problème. Les associations s'y mêlent, on fait des sensibilisations, on fait même des missions pour aller expliquer et on explique aux gens de donner à bon prix, de ne pas acheter des choses, mettre à côté 2 mois, 3 mois pour faire de la surenchère. Nous sommes dans un pays où les gens sont pauvres à peu près à combien de pourcents? Les gens n'ont pas assez de moyens. Et nous sommes dans un pays où les consommateurs, nous qui sommes des commerçants, nous sommes des Maliens, les consommateurs sont aussi des Maliens, qu'on ait pitié aussi à la population. Parce que la pitié aussi fait partie de l'islam. Je crois que les associations, que ce soit les syndicats des commerçants détaillants, d'autres associations, s'impliquent pour qu'il n'y ait pas augmentation du prix. Mais comme je vous ai dit en première position, souvent dans l'application, il y a des problèmes. Sinon, on s'implique depuis un mois avant le mois de Carême. On fait des formations, on fait des sensibilisations, on explique pour qu'il n'y ait pas d'augmentation des prix.
D'accord. Merci beaucoup, Jean-Thomas Koïta, donc du Syndicat national des commerçants détaillants. Alors, les consommateurs, l'avis des consommateurs par rapport toujours à cette question de prix. Est-ce que, madame, vous comprenez le fait que en cette période où il est demandé de mettre la foi devant tout, que les spéculations, c'est à cette période que les spéculations s'activent le plus?
Vous savez, il y a plein de contradictions, il y a beaucoup de contradictions. Quand on parle de foi, quand on parle d'honnêteté, je dirais, quand on parle d'intérêt, nous avons, il l'a dit tout à l'heure, il y a le Conseil national du prix, dont les associations sont membres, les organisations syndicales également sont là, avec les services techniques, pour tout au long de l'année, se réunir de manière régulière, pour faire un peu la gestion des prix, faire en sorte que les choses n'aillent pas à gauche et à droite. Mais mon constat personnel est que, d'une manière générale, les commerçants n'ont pas d'état d'âme. Je suis désolé de le dire, ils n'ont pas d'état d'âme. Ils sont sur leur intérêt. Ils sont sur leur intérêt et on a beau parler, ils vont trouver les moyens de le faire. J'achetais, je fais presque tous les marchés de Bamako, par rapport au... C'est pas seulement par rapport à mon rôle, c'est par rapport à... Je suis une ménagère, il faut pas croire que pour contrôler et faire ma vie à la maison. Je suis une femme, une ménagère comme tout le monde.
Avant tout.
Avant tout. Donc je vois la tomate, nous l'achetons, la tomate, la petite, qu'on appelle Minkon, Doromedourou. 25 francs, la petite tomate Minkon. Je l'achète. Et ça, au niveau de tous les marchés, au niveau de... Dikoroni, je vais là-bas. Boulibana, l'ancien marché de Bolibana, là, qui a quitté, qui est au Badjana, près de la maison de mon père, je fais là-bas. Je fais également le marché de Sabalibougou. Sabalibougou est le meilleur parmi les autres. Il y a le marché de Calaban. Calaban, que je fais également. Je fais tous ces marchés.
Donc pratiquement de bout en bout.
De bout, je fais. En tout cas, pour faire mes achats, je fais tout ça. Ça dépend de mon temps et de ce que je cherche. Donc, je constate que vraiment, le persil aujourd'hui, on ne le voit pas sur le marché. Mais le céleri qu'on utilise de manière régulière dans tous les repas, pour la viande, pour la sauce, est vendu la petite pièce aussi à 25 francs. Et on ne peut pas marchander avant. On peut marchander. Moi, j'allais, quand je vais au marché de Médine, j'ai les trois à 50 francs. Mais ça a changé. C'est un bouquet pour 25 francs. À tous les niveaux. Et c'est très, très difficile à acquérir. Ça concerne l'oignon. Il l'a dit tantôt. Moi, je l'ai acheté l'autre jour. J'ai acheté à 375. Pas 300, 375, il a dit si je ne donne pas ça, il ne donne pas.
Alors, madame, est-ce que de ce côté-là, il est possible pour l'État de s'investir auprès, par exemple, des maraîchers pour réguler le prix? Comment est-ce que vous comptez vous impliquer dans ce domaine?
Vous savez, on était plus à l'aise avant. Parce que plus à l'aise, on demandait à l'État, il faut détaxer avec les commerçants. L'État faisait le nécessaire. Aujourd'hui, vraiment, il faut le dire, l'État faisait le nécessaire. Mais aujourd'hui, avec nous-mêmes, dans le contexte 2012 à aujourd'hui, le comportement des producteurs maliens, je n'arrive pas à comprendre. Ils n'ont pas pitié. Très honnêtement, je parle sans détour. Ils n'ont pas pitié de nous. Ils n'ont pas pitié des ménagères.
Donc, ce n'est plus que l'État ne fait pas ce qu'il doit faire.
Ça dépasse l'État parce que c'est local. C'est les individus, les maraîchers et les autres qui le font. Ça ne vient pas de l'extérieur, c'est pas importé, c'est pas l'huile, c'est pas le sucre, c'est pas le produit sur lequel on fait le plaidoyer à longueur, ce n'est plus ça. Ça, c'est régulé. Mais par contre, les produits locaux, le riz, le mil, tout, ce sont les produits importés qui sont maintenus à des prix stables, mais les produits locaux, tous les jours, ça grimpe. Tous les jours, ça grimpe. Donc, c'est le lieu, je pense qu'il l'a dit, l'imam, c'est à eux, peut-être de parler, mais les femmes ne sont pas là-bas. Parce que les femmes qui font ce commerce-là, je ne sais pas si elles sont toutes présentes parce qu'elles sont dans les marchés, elles vont chercher les produits. Il faut les sensibiliser davantage. Il faut sensibiliser aussi les maraîchers. Parce que les maraîchers sont aussi dedans.
C'est la période.
Oui, c'est la période.
Merci beaucoup, madame. Alors, on parle toujours des produits, que ce soit les produits maraîchers, mais également les produits tels que les boissons. On en parle moins, on voit toutes sortes de boissons. Quel est l'impact, par exemple, d'une boisson avariée sur un organisme, docteur Guillo?
Bon, merci. Ça, c'est l'impact d'une boisson avariée sur l'organisme,
d'un produit avarié quelconque,
c'est énorme. Ça peut aller, comme je le disais tout à l'heure, d'un simple malaise jusqu'à la mort. Parce qu'un produit avarié, ça veut dire que le contenu en termes de constituants n'est plus maîtrisé. Donc ce qui est considéré comme bon quand le produit était dans les conditions normales n'est plus bon. Donc un produit, quand il n'est pas bon, surtout un produit de consommation, quitte du nutriment et peut devenir un toxique. Et quand il devient toxique, ça peut causer tout dommage selon la spécificité de cette toxine ou bien de ce poison. Ça peut causer plusieurs types de dommages. Ça peut être des simples diarrhées qui se manifestent, surtout chez les enfants et les personnes âgées qui sont les populations les plus vulnérables sur beaucoup de plans. Et même les populations considérées comme adultes aussi également, parce qu'un poison, c'est contraire au fonctionnement de l'organisme. Donc, bien sûr, ça va causer des dommages. Et ces dommages, comme je l'ai dit, ça peut aller jusqu'à la mort. Donc, si surtout là, on a le produit avarié, le poison atteint une certaine concentration, le sang ne peut plus le supporter, le sang ne pourra plus faire son épuration, alors l'organisme ne peut plus supporter. Donc ça peut causer la mort, soit par une défaillance du rein, soit par l'arrêt du cœur, ou bien par autre événement qui peuvent causer la mort.
Voilà. Alors, ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, ils disent souvent c'est un produit alimentaire, on voit pas en quoi est-ce que cela peut être toxique pour l'organisme. Est-ce que c'est par rapport aux composants chimiques qui sont dans ces aliments que le produit devient dangereux ou bien qu'est-ce qui se passe?
C'est un constituant chimique. Qu'il soit un poison ou qu'il soit un aliment consommable. Donc la base, c'est que c'est des composants chimiques. Donc le composant chimique, quand il est bon, c'est un bon nutriment. Donc il concourt parfaitement à l'état nutritionnel d'un sujet, quel qu'il soit. Mais quand il devient avarié, ça veut dire que la composition chimique change. Ça peut être suite à une mauvaise conservation, ou bien ça peut être... à la date de péremption, là on a dépassé les délais ou une mauvaise utilisation également. Un produit avarié peut venir également d'une mauvaise utilisation. Donc quand on a ça, il faut que je puisse illustrer par un exemple. Un produit sur le plan chimique, je veux parler un peu de manière compréhensible. Sur le plan chimique, et on peut dire qu'un produit, un nutriment par exemple, s'il est composé de deux éléments qui ont une certaine forme et une certaine taille, quand il devient avarié, la forme peut changer, la taille également peut changer. Et quand ça change...
Et même la couleur.
Oui, même la couleur. Quand ça change, ce n'est pas la même interaction avec les éléments de l'organisme. Donc en ce moment, il ne devient plus un élément un nutriment, mais il peut devenir un poison. Donc vous voyez comment d'un aliment on peut passer automatiquement à au poison.
Être syndicat des commerçants détaillants, merci beaucoup docteur, c'est aussi veiller à cela. Est-ce que vous menez des activités par rapport à cette question de produits avariés d'Anto Makoïta?
Bon, par rapport aux produits avariés, je crois que comme Madame vient de dire que le commerçant, souvent, n'a pas pitié ou bien on a quoi. Je sais qu'il y a
les
des
producteurs.
Gens,
Madame a dit les producteurs. Hein?
Bon, les producteurs, c'est encore dans notre domaine.
Des vendeurs. Okay.
Il y a des vendeurs, quand le produit, la date, c'est en fin juin, ils ont le moyen de falsifier les dates. Nous sommes commerçants, nous sommes syndicats, mais nous sommes consommateurs aussi. Ça veut dire, ayons pitié de cette population. Les gens font de n'importe quoi dans ce pays. Bon, nous sommes regroupés en association pour aussi décrier ce qui se passe. On défend nos intérêts, mais on fait la sensibilisation de ce qui doit se faire. Mais on sait souvent, il y a des services de répression qui viennent saisir souvent des boissons avariées et peuvent encore donner autrement à d'autres personnes pour aller revendre dans ce pays-là, ça se passe. Il y a souvent aussi...
Donc c'est toute une chaîne.
C'est toute une chaîne. Il y a souvent aussi des services de répression qui peuvent prendre des gens, mais qui ne sont pas punis. Si quelqu'un, Imam Diallo, envoie quelque chose, on le prend, il donne 300, 200 000 francs, il sort.
C'est un exemple.
Oui, un exemple. Je prends l'exemple quoi. Mais s'il y a la punition, s'il y avait la punition, la répression, les gens pouvaient avoir peur. C'est ça aujourd'hui le problème de ce pays. Je ne sais pas ça a commencé quand, mais je sais qu'il n'y a pas de répression. Les gens sont laissés, ils font ce qu'ils veulent et ils sont toujours prêts à arranger avec l'argent. C'est ça le problème. Sinon, on s'est regroupé en association pour défendre nous, mais défendre aussi l'État et la population. Mais vraiment, il y a toutes sortes de produits dans le marché et vendus n'importe comment. Mais nous, étant commerçants, on peut aller dénoncer un autre commerçant. Ça, c'est pas possible. Mais il y a des services de répression qui doivent descendre, faire des saisies et puis prendre ces gens-là. Même si c'est des gens qui sont pris, c'est membres de nos associations, on peut aller intervenir, c'est vrai. Parce que c'est nos gens. Mais quand même que les gens soient punis, ça peut faire que les gens peuvent avoir peur, de dissuader, de changer de comportement.
D'accord. Alors nous allons observer quelques secondes de pause avant de reprendre cette émission et de la boucler avec cette troisième partie consacrée à un domaine qui va intéresser le docteur Guindo, Ramadan et la santé. Nous allons nous retrouver juste après ça.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
N'oubliez surtout pas de réagir à nos infos. C'est vos réactions et vos commentaires sont donc les bienvenus sur notre site web et notre page Facebook et notre compte Twitter également. Le grand dialogue d'aujourd'hui est consacré au Ramadan, les règles du Ramadan, le Ramadan vis-à-vis du prix des denrées de première nécessité dans le marché et la comparaison donc que l'on peut faire et la compatibilité entre Ramadan et santé. Alors, avant de vous donner la parole, docteur, je me tourne vers Imam El Hadj Mamadou Diallo. El Hadj, est-ce que aujourd'hui la religion permet à ce que quelqu'un qui est déjà malade puisse jeûner ou s'entêter de jeûner?
Vous savez, l'islam est clair là-dessus. Le verset que j'ai cité, le même verset continue. Si vous êtes malade ou bien même si vous êtes en voyage et gêné, vous créez des problèmes, l'islam vous demande de ne pas gêner. C'est tellement simple. Personne n'a le droit de s'autodétruire pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu le dit clairement, Allah veut pour vous la facilité et non la difficulté. Donc la religion, elle est simple, mais vous constaterez avec ce que les consommateurs et les commerçants disent, c'est que les gens n'ont pas la foi. Malgré qu'on dit qu'on a tous des musulmans ici, mais quand même, les pratiques au quotidien montrent que vraiment cet islam-là, il y a beaucoup de choses qui manquent. Hein, si on croit sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on a la foi, on peut pas quand même, il y a des choses qu'on peut pas se permettre de le faire. Et c'est ça le constat aujourd'hui. Donc, l'islam est vraiment clair. Si vous êtes malade, vraiment, et vous êtes dispensé, vous ne devrez pas gêner. Voilà.
Merci beaucoup, Imam Diallo. Alors, docteur Ibrahima Guindo, de l'Institut National de Recherche en Santé et Publique, aujourd'hui, qui doit jeûner et qui ne doit pas jeûner?
Alors, question difficile.
Pas du tout, parce que là, c'est la vie des médecins qui est importante, c'est pas la vie des religieux qu'on demande. Parce que ça, c'est une question qui relève de la santé.
Technique, hein.
Voilà.
Oui. D'accord. Okay. Alors, docteur, vous avez la parole.
Ok, donc, merci. Mais je maintiens mes propos. C'est une question difficile. A priori, qui doit gêner, qui ne doit pas gêner? Et au départ, c'est difficile. Pourquoi? Tantôt, j'avais parlé des situations non connues. Quelqu'un peut acquérir un état pathologique non connu, qui n'est pas déclenché, qui ne s'est pas encore manifesté. Et que suite à son jeûne, il peut
développer.
Mais à le voir, cliniquement, c'est un patient qu'on va qualifier de sain. Et on pourra le dire, il peut jeûner. Alors, donc, ça, c'est des petits pièges qu'on peut avoir. Mais toute personne vraiment qui est en bonne santé, qui peut tenir et qui n'est pas... Et souvent d'un certain âge, parce qu'on a ce problème avec les personnes.
Jusqu'à quel
âgées.
Âge, par exemple?
Alors, ça dépend de l'état de santé. Oui. Ça dépend de l'état de santé. Si un clinicien juge que son état de santé peut le permettre de gêner, il n'y a absolument aucun problème. Il pourra gêner. Mais je reviens encore sur le troisième âge. C'est des situations difficiles que nous vivons chaque fois. Et chaque mois de Ramadan, ça revient. On a des difficultés à pouvoir convaincre beaucoup d'entre eux d'arrêter de gêner. Donc, ils tiennent aux jeunes, ils disent que c'est un devoir du religieux. Il faut qu'ils puissent gêner. Donc, c'est vraiment énormément difficile.
Difficile de les convaincre.
Voilà, de les convaincre. Bon, on a beau leur expliquer, mais ils tiennent à ça. C'est la difficulté majeure qu'on a, qu'on a avec les personnes âgées, même s'ils ne sont pas tout de suite malades. Mais le fait de leur âge fait que la situation de l'organisme et supporte difficilement un manque d'apport alimentaire jusqu'à un certain nombre de temps. Sinon, en dehors de ces situations, et les enfants aussi très petits à un certain âge, il y a des enfants qui veulent, ils voient, les parents sont des exemples, sont des modèles. Et ils savent que les parents gênent, ils veulent gêner aussi. Ils veulent gêner. Donc, à un certain âge...
C'est pas sans conséquence.
Oui, à un certain âge, voilà, c'est pas sans conséquence. Mais c'est bien, religieusement, ça les met sur une certaine voie. Ils comprennent déjà leur devoir dans la religion ou ce qu'ils doivent.
Donc, qu'est-ce que vous conseillez dans ce cas? Une alternance de jeûne durant le mois ou bien jeûner tout le mois ou bien s'abstenir carrément de jeûner?
Bon, pour une personne qui est vraiment malade, et que le médecin ne le recommande pas de jeûner, c'est de ne pas du tout jeûner. Parce que le jeûne, ça va dépendre des pathologies. Suite à certaines pathologies, vous pouvez jeûner et ça peut aboutir à la mort. Il peut y avoir des perturbations. Le temps de vous amener et de vous administrer des soins, vous pouvez trépasser. Donc, si le médecin vous recommande de ne pas jeûner, mieux vaut observer les recommandations du jeûne. Parce qu'il y a beaucoup de pathologies. Il y en a beaucoup. On ne pourra pas finir d'en citer. Il y a beaucoup. Les plus fréquents, surtout, ce que les malades, la population appelle communément les gastrites, furodimie. Donc, c'est vraiment, c'est beaucoup. Ça aussi, c'est à des degrés divers. Donc, certains peuvent supporter avec les recommandations des cliniciens. Ils leur disent comment ils peuvent faire. Donc, ils leur donnent des recommandations de, bien sûr, les soutenir un peu avec des médicaments qui empêchent l'aggravation de leur maladie. Et ils peuvent supporter. Beaucoup peuvent supporter. Mais quand ça atteint un certain niveau, les médecins ne peuvent pas recommander que les patients de ces catégories-là puissent gêner. Voilà.
Je n'ai pas fini avec vous, docteur, mais je vais revenir juste cette question à madame. Nous parlons de santé. Tout à l'heure, nous avons parlé des produits avariés, mais les consommateurs également ont une responsabilité dans l'achat de ces produits. C'est des produits bon marché, parfois, qu'on remplit les paniers avec. Quelle doit être la responsabilité des consommateurs par rapport à ces produits bon marché ? Avariés souvent.
Les produits avariés, je regarde dans la rue quand on passe en voiture, on est abordé là tout au long de la route pour des biscuits, des choses qu'ils vendent comme ça en promo. Sûrement ils ont pris ça au niveau des supermarchés et c'est sûr que c'est des produits avariés. Mais la ménagère ne tient compte que de sa bourse. Elle voit seulement l'aspect, ah ça coûte ça, je vais l'acheter. Elle n'évalue pas le risque encouru, elle ne le sait pas. On a beau dire, nous on aurait voulu justement qu'on puisse aller vers certaines explications au niveau des radios de manière régulière, c'est-à-dire expliquer les boîtes gondolées, des signes, donner un certain nombre de signes qui alertent pour ne pas acheter. Quand il y a aussi, comment on appelle, zontroïde,
la rouille
sur les boîtes, il y a tout ça, des choses, il faut se méfier. Je pense que ça, c'est des choses qu'on devrait faire sur les radios, Radio Mali, et surtout les radios de proximité, les radios privées, de manière courante. On devrait, pour attirer l'attention des ménagères, parce qu'elles sont de bonne foi, elles pensent que c'est une opportunité pour apporter plus à la famille, et alors qu'il y a des risques qu'elles ignorent. Donc il y a cet aspect-là
tout ça qu'il faut
gérer.
Qu'est-ce que vous leur conseillez aujourd'hui?
Moi je leur conseille d'être prudent, parce que moi je vois la tomate même qu'on vend, ce dont je viens de vous parler. Moi je vérifie ma tomate une à une, je suis très mesquine sur le marché, on me connaît pour ça. Et bien qu'elles vendent à ce prix-là, elles sont capables de mélanger à tes tomates des tomates déjà pourries. Quand on vérifie, on trouve des... Moi je dis, mais ayez peur de Dieu. Est-ce que ça se fait à ce prix-là? À longueur de temps, je les moralise un peu. Quoi.
Donc, vous demandez plus de vigilance.
Plus de vigilance aux ménagères. C'est les ménagères vraiment que je voudrais. Il faut qu'elles soient vigilantes. Il ne faut pas qu'elles acceptent n'importe quoi sur le marché. Si tu as 25 francs, si ça coûte une tomate, prends une bonne tomate. N'accepte pas qu'on te donne la tomate pourrie. Qu'on te donne deux tomates pourries à la place. Ce n'est pas bon.
Les conséquences peuvent être...
Je voudrais, par rapport à ce que les uns et les autres ont dit, au carême, moi, je suis drépanocytaire. Et pendant, j'ai fait la France, donc je suis évalué, tout ça, depuis l'enfance, tout ça. Et je me fais suivre régulièrement. J'ai cru pendant longtemps que je ne pouvais pas faire le jeûne. J'ai eu peur d'affronter le jeûne. L'année dernière, j'ai dit non, cette année, moi je vais essayer, je me sens bien. J'ai essayé, j'ai fait les 30 jours, je n'ai rien eu. Je rends grâce à Dieu. Donc cette année, je vais essayer de faire la même chose. C'est pour ça, dépend, il y a des degrés différents. Moi je suis AS, mais c'est la bonne forme qui est le A, qui est 55. Okay. Donc 45 en l'autre. Donc je supporte mieux que d'autres. Et puis ça dépend des gens. Moi, je suis... Voilà. Donc je voudrais attirer l'attention sur ces choses-là. Bon, on peut faire, mais il faut rester vigilant. Dès qu'il y a une faillite, il faut arrêter.
Tout à fait.
Madame complète donc les éléments de réponse du docteur. Alors, docteur Guindo, je me tourne vers vous aujourd'hui. Certains ont des problèmes gastriques, mais ne le savent pas. Quels sont aujourd'hui les signes, les premiers signes des problèmes gastriques?
Les signes les plus fréquents, c'est d'abord certains ressentent des types de picotements. D'autres, c'est des genre des reflux.
Picotement où? Oui. Sur le thorax?
Oui, sur le thorax. C'est en fait le côté gauche où le cœur est, pardon, où l'estomac est disposé. Donc ils sentent, ils ont l'impression que c'est des points de côté. Ils ont l'impression que ça les pique. Donc pour certains, ça se manifeste comme ça. C'est pas beaucoup. Mais les signes les plus fréquents, c'est les reflux.
Les remontées acides.
Donc les patients ou la population, c'est concerné la sente qu'il y a une certaine acidité et ça les brûle au niveau de l'estomac. Donc les remontées associées à la brûlure. Chez d'autres, ça, c'est le fait qu'il y a des remontées et qu'il y a des brûlures, certains les ressentent plus, d'autres les ressentent peu. Mais après, il y a d'autres signes qui peuvent le faire. Certains vous diront, ah, mon corps chauffe, c'est au niveau du dos, ça me chauffe. D'autres vous disent que la plante du pied, ça les chauffe. Donc, ce n'est pas un signe tout de suite, s'il y a ça, que vous êtes un gastrique. Non, ce n'est pas du tout ça. Mais au cours des gastriques, ces signes-là peuvent survenir. Et c'est au médecin, que si vous avez des plaintes comme ça, c'est au médecin de pouvoir faire son diagnostic et de vous confirmer que réellement vous avez une situation de gastrique et il fera des démarches nécessaires, ça peut être des analyses ou d'autres choses complémentaires pour vous dire que ah, vous êtes à tel stade de gastrite, voilà, vous pouvez gêner, suivez tel règlement et telle recommandation et il n'y a pas de problème. Ou bien il vous dira ah, attention, vous êtes à un niveau, vous êtes à risque. Vous pouvez supporter comme vous pouvez ne pas supporter, mais je vous conseillerais d'observer, par exemple, une pause. Ou bien vous dira, ah non, vous ne pouvez pas du tout supporter, faites un traitement d'abord, et voilà.
Est-ce que manger à 4 heures du matin est sans risque?
Manger à 4 heures du matin.
Surtout du riz.
Sans risque, manger à 4 heures du matin n'a pas de risque.
Des personnes comme moi, on se gave d'abord, avant de sortir. Ouais. Est-ce que c'est normal?
Le risque, bon, normal, entre guillemets, c'est, ça dépend, voilà, parce que le fait de manger de trop, ça c'est un excès. C'est un excès, d'abord, ce n'est pas bon. Ça, c'est une première des choses. Vous vous exposez après à des malaises. L'excès dans l'alimentation,
durant
la journée, l'excès dans l'alimentation, ça peut vous amener des indigestions. Donc, et si vous avez une indigestion, ça peut se manifester même par des douleurs. Donc, le fait que vous gênez, vous allez accentuer votre situation avec des douleurs que vous allez essayer de supporter. Parce que quelqu'un qui gêne tient à respecter sa période de gêne. Donc, se gaver vraiment, c'est s'exposer vraiment à des malaises. Donc, c'est pas, nous ne recommandons pas
le gavage. Donc, j'arrête à partir d'aujourd'hui.
Oui.
Alors, Imam, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Il y a également des règles diététiques que vous communiquez lors de vos prêches, très certainement. Et que conseillez-vous comme alimentation aux jeunes?
Là, hein, vous...
Là, vous prenez la place plutôt, du docteur.
C'est plutôt, on n'a pas. Vous savez, l'islam dit que chaque spécialiste doit s'exprimer sur sa spécialité. Moi, c'est le texte coranique. Voilà, donc je ne suis pas vraiment.
On dit de manger beaucoup de fruits, par exemple.
Voilà, exactement.
Notamment les dates.
Tout le monde le sait. Voilà, les dates. Mais pour moi, je suis diabétique, donc les dates, c'est pas bon pour moi. Donc il y a ça aussi. En tout cas, le prophète, la sunna du prophète recommande de faire la rupture avec les dates. Voilà. Donc, mais je voulais revenir sur ce que le docteur Dinguindo a dit par rapport aux enfants, rapidement. C'est-à-dire, vous savez, un enfant, vraiment, il y a une période d'apprentissage. Nous avons tous passé par cette étape-là. Donc, chez nous, je me rappelle, au niveau de ma famille, il y a des gens qui gênent juste entre 4h du matin à 6h du matin, ils rompent. Il y en a qui aillent jusqu'à 10h, jusqu'à midi. Voilà, c'est une manière d'apprendre. C'est une période d'apprentissage. Voilà. Et puis, voilà, s'ils s'agrandissent, vraiment, ça devient facile pour eux. Mais donc, sinon, l'islam recommande de jeûner. Le jeûne du ramadan devient obligatoire pour une fois que vous atteindrez l'âge de la puberté. Sinon, avant, vraiment, c'est l'apprentissage. Vous pouvez jeûner pour vous habituer.
D'accord.
Et par rapport aux personnes âgées aussi, une fois que votre âge a avancé à un certain niveau, et là aussi, l'islam recommande de donner la nourriture à un pauvre, de ne pas gêner.
D'accord. Donc, merci beaucoup, Imam. Merci beaucoup, chers auditeurs. C'est donc la fin de cette émission. Nous étions avec quatre invités, Imam Elhadj Mamadou Diallo de Trokrobougou, Dr Ibrahima Guindo de l'Institut National de Recherche en Santé Publique, Djantouma Koïta du Syndicat National des Commerçants Détaillants et Mme Koulibaly Salimata Diarra, elle est présidente de l'Association des Consommateurs du Mali. Salim Douara était à la mise en onde de cette émission. Ousmane Diadé Touré et Ayou Basso étaient à la réalisation. Je suis Famoussa Sidibé, Petit Diarra était à la régie vidéo. Bon ramadan et à demain pour un autre débat.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani wa Makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.